RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, si vous êtes en Afrique ou si vous y avez voyagé, c'est certain, vous les avez vus. À vélo, à moto, en voiture, en camionnette ou en camion, les sacs de charbon de bois entassés, parfois en défiant les lois de l'équilibre, arrivent par tonnes vers la ville la plus proche. Ces sacs de 60 ou 80 kilos, vous les retrouvez sur les marchés des villes africaines, car le charbon de bois est encore, pour l'essentiel de la population, la solution la moins chère pour cuisiner. C'est une catastrophe sanitaire à cause des fumées qui polluent l'air des maisons. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette fumée cause plus de 3 millions de morts prématurées par an, dont au moins 500 000 en Afrique subsaharienne. C'est aussi une catastrophe environnementale, car même si des réglementations émergent ici ou là, l'utilisation du charbon de bois, majoritairement géré par des réseaux informels, entraîne des centaines de milliers d'hectares de déforestation chaque année. Pourtant, personne n'en parle, ou presque. Quelles sont les solutions quand il n'y a rien d'autre d'accessible? Eh bien, il y a une alternative qui se développe depuis quelques années grâce à l'ingéniosité de quelques entrepreneurs. C'est le charbon vert, produit à partir de déchets organiques. Nous allons vous emmener à la rencontre de Steve Jochou, qui se bat pour le développer à Yaoundé, au Cameroun. Et nous allons vous faire découvrir le cluster africain du charbon vert. Auditeurs entrepreneurs, cette émission est pour vous.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Benoît Théo.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Poitiers, c'est dans l'ouest de la France. Vous êtes le cofondateur avec Meriem Ouzir du projet ICAF, qui signifie Initiative Climat Afrique Francophone, qui réunit 300 entrepreneurs africains de 35 pays. Tout a débuté en 2016 au Maroc. Racontez-nous cela.
Eh bien, disons que nous avons voulu marquer un petit peu cet événement de la COP22, donc toujours ce grand rendez-vous international sur le climat, pour montrer aux participants et puis plus largement à travers les médias qu'en Afrique, il y avait beaucoup d'associations, d'entrepreneurs, de collectivités qui menaient des projets pour préserver évidemment l'environnement, pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, avoir une touche un petit peu positive, parce que très souvent, dans ces instances internationales, bon, bien sûr, tout le monde connaît les rapports du GIEC, on fait souvent des constats très négatifs de la situation sur le plan du changement climatique.
Il faut reconnaître que ça ne va pas très bien. Mais en effet, il y a des initiatives positives et c'est ce que vous mettez en avant. Donc depuis 2016, le réseau s'est bien développé.
Alors en 2016, donc à peu près une vingtaine de personnes ont participé, d'une dizaine de pays ont participé à un certain nombre d'événements que nous avons organisés donc à Marrakech. Et puis à la suite de cet événement, ces personnes ont souhaité continuer. C'est comme ça que le réseau, qui est au départ un réseau totalement informel, s'est constitué. Au fil des années, bien sûr, on s'est ouvert à un peu plus d'une vingtaine de pays, puisque nous avons maintenant des porteurs de projets dans 25 pays d'Afrique. Et à ce jour, nous avons 35 correspondants pays dans 15 pays d'Afrique francophone. Et donc, ce sont ces correspondants pays qui conduisent des actions au niveau local et qui font connaître, évidemment, tout ce que fait le réseau Initiative Climat.
Alors, vous avez créé ce que vous appelez des clusters, c'est-à-dire, en gros, des ensembles d'entrepreneurs qui travaillent sur des sujets communs. Donc, il y en a trois, agroécologie, biogaz et charbon vert. Alors, nous allons nous intéresser plus particulièrement au charbon vert dans cette émission. Mais vous pouvez peut-être nous dire quelques mots du cluster agroécologie et du cluster biogaz?
Eh bien, ces clusters, en fait, ont été créés par des porteurs de projets qui travaillent justement sur ces questions-là. C'est pas des choses qu'on a imaginées dans une tête pensante. C'est vraiment des initiatives qui arrivent de la base. Donc, le cluster agroécologie a été créé en 2020. Aujourd'hui, il y a une trentaine de membres de 13 pays d'Afrique qui en font partie. Et donc là, ces membres travaillent bien sûr sur la diffusion des pratiques de l'agroécologie, mais aussi la production, par exemple, de bio-intrants, de bioprotecteurs, etc. Et puis le cluster biogaz, lui, est plus récent. Il a été créé au Maroc en décembre 2022, avec justement des personnes de différents pays, Niger, Cameroun, Maroc, Mali, qui sont engagés dans ce processus de construction de biodigesteurs pour permettre aux gens d'avoir accès à la fois à une énergie renouvelable et aussi à des engrais organiques.
Et
Et
donc
puis
le cluster charbon vert, donc depuis juin 2019. Alors comment ça s'est créé ce cluster-là aussi? C'est parce qu'il y avait plusieurs entrepreneurs qui se sont lancés dans cette aventure?
Effectivement, dès la COP22 à Marrakech, nous avions déjà 4 ou 5 producteurs de charbon vert qui étaient présents. Et puis, au fil des mois, comme ça, ils ont été rejoints par d'autres. Aujourd'hui, il y a des membres du cluster charbon vert dans une douzaine de pays d'Afrique francophone. Alors, ce sont des producteurs qui sont arrivés à des stades de production un peu disparates, hein. On a à la fois une production, on va dire, artisanale ou semi-artisanale, et on va jusqu'à la production semi-industrielle. On a certains producteurs qui produisent 5 à 10 tonnes par mois, et puis les plus importants peuvent produire jusqu'à 70 tonnes de charbon vert par an. Mais tous ont le souci, effectivement, de partager leurs expériences et leurs pratiques. Ça, c'est vraiment le cluster. Dans le cluster, on n'a pas des experts, hein, je dirais, qui viennent de l'étranger, qui viennent du Nord. Ce sont effectivement les producteurs qui eux-mêmes échangent en permanence leurs expériences, leurs pratiques pour s'aider effectivement mutuellement. Alors ça se fait dans différents domaines. Ça se fait dans le domaine de la recherche de la qualité du charbon vert. C'est très important de mettre sur le marché une qualité de charbon vert qui soit aussi importante que la qualité du charbon de bois. Ça se fait dans le domaine de la conception et la construction même sur place en Afrique de matériel de production de charbon vert. Parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs en important des matériels, notamment de Chine, parce que là, le service après-vente n'est pas assuré, la maintenance est difficile. Donc maintenant, la tendance, c'est de produire localement les matériels qui sont nécessaires à la production du charbon vert. Et puis aussi, un guide de production du charbon vert qui est à ce jour le seul document qui existe en français et en anglais et qui donne, je veux dire, des bases pour connaître un petit peu, pour découvrir la filière de production du charbon vert.
Alors, nous allons comprendre un peu mieux en allant au Cameroun où la consommation annuelle de charbon de bois est estimée à 375 000 tonnes. Le marché global pèse 17 milliards de francs CFA, soit 26 millions d'euros par an. Plus de la moitié de ce charbon est utilisé à Douala et à Yaoundé, les deux grandes villes du pays. Alors, à Douala, vous accompagnez l'entreprise Kémite Écologie de Müller Tankeux qui transforme depuis 6 ans des déchets organiques en charbon écologique. Et à Yaoundé, l'ingénieur en énergie renouvelable Steve Djetchou se bat pour développer une filière. Avec son entreprise Théma, il installe des panneaux solaires, des producteurs de biogaz et il fabrique du charbon biologique. Il a aussi créé une académie pour former les jeunes entrepreneurs aux énergies renouvelables. Son dynamisme est contagieux, vous allez l'entendre, et son costume 3 pièces bleu électrique.
Ici, nous sommes à l'entrée de la ville de Yaoundé, donc plus précisément au quartier Barrière. Et nous sommes là dans les carrières de production du charbon de bois. Donc nous venons ici pour essayer de voir quels sont les procédés de production de ce charbon de bois. Voilà la raison d'être de notre présence ici.
Alors, on entend derrière nous le bruit de bois qui est scié parce que nous sommes juste à la sortie d'une scierie. Et ce sont justement les déchets de la scierie qui sont utilisés. Pour faire le charbon de bois, et ce sont ces messieurs qui s'en occupent. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Vous vous occupez de produire le charbon de bois. Alors, on va essayer d'expliquer aux auditeurs, parce que à la radio, on n'a pas l'image. Là, nous sommes en bord de route, et à côté de nous, il y a un grand tas, on dirait un grand tas de terre qui fume. C'est comme ça que vous fabriquez le charbon. Alors, déjà, le bois vient d'où?
Le bois nous vient dans les différentes scieries de la périphérie de Yaoundé. Et c'est à ce niveau, on part s'acquérir ce bois, on achète, et puis on vient pour faire du charbon. Et pour cela, il faudrait qu'on ait d'abord l'espace pour en faire. Et ensuite, dès qu'on a l'espace, on classe le bois, on coupe les herbes, on dépose dessus, comme on atteste, comme si on faisait une petite natte. Puis on verse la terre au-dessus, on met du feu, on attend 3-4 jours pour commencer à en extraire.
Mais comment est-ce que vous voyez que le bois qui est sous la terre est brûlé? Parce que là, le bois est complètement recouvert de terre.
Lorsque ça a brûlé, ça s'affaisse légèrement. Donc la partie qui a brûlé, ça s'affaisse légèrement. Et puis là, on sait que ici, ça a brûlé, on le retire.
Donc vous mettez les déchets sur des tranches de tronc en fait sous la terre et ça reste 3-4 jours et ça se consume petit à petit. Et alors après, quand vous enlevez la terre, le charbon est prêt?
Je dis, on surveille pour que le feu ne déborde pas, ne gâte pas le bois.
Vous surveillez même jour et nuit, quoi.
Oui, c'est jour et nuit qu'on surveille.
C'est un gros travail.
C'est un gros travail.
Et une fois que ça s'est affaissé, au bout de 3-4 jours, donc vous enlevez la terre et là, qu'est-ce qui se passe?
Lorsqu'on enlève la terre, on retire le bois déjà brûlé en charbon, on éteint avec de l'eau et puis ça refroidit, on ramasse, on met dans les sacs.
Et le charbon ici, c'est du charbon de bonne qualité.
Oui, c'est le charbon lourd. C'est le charbon lourd. On fait ça avec le bois, le talc et le camp.
Et pourquoi c'est du charbon lourd? Parce que c'est justement les déchets de la scierie, donc c'est du bois bien sec.
Même si c'est, on ne fait même pas le charbon avec le bois sec. On fait le charbon avec le bois qui est encore humide. Les gens qui viennent acheter nous disent que quand ils préparent avec, ça ne brûle pas vite. Ça brûle doucement, doucement.
Donc c'est du bon charbon. Il y a beaucoup de personnes qui font ça dans le coin?
Oui, il y en a beaucoup de personnes. Et il y a le site, il y a d'autres sites encore plus loin.
Parce qu'il y a une demande très importante.
Oui, il y en a. Yaoundé est vaste. Non seulement Yaoundé, ce n'est pas seulement Yaoundé qui consomme. Oh, ça va jusqu'à Douala, donc c'est énorme.
Et alors vous les vendez combien ces sacs?
Les sacs de 100 kilos, les L8, c'est dans les 9 000, 10 000.
Et vous en fabriquez combien à peu près à l'année?
Ça peut aller à 2000, 2500 sacs par an.
Donc environ quand même 16 tonnes de charbon par an en moyenne. C'est quand même un travail très important. Et vous gagnez correctement votre vie?
Ah, si ça peut nous aider à résoudre nos petits problèmes, nous on sommes là au maintien. Que d'aller voler ou rester au quartier sans rien faire.
Que d'aller rester à la maison et croiser les bras. On préfère venir faire ces petites activités pour survenir à nos besoins.
Et vous êtes beaucoup dans la fumée, là, tout ça, ça gratte pas un peu la gorge?
Non, ça n'arrête pas.
On est déjà habitué, on porte aussi les cache-nez.
Eh bien, je vous souhaite bon courage, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, merci.
Steve, là, on va laisser ces messieurs travailler. Qu'est-ce qu'on fait après?
Je pense que dans l'optique de vulgariser ce que nous faisons en termes d'énergie renouvelable, il est question déjà d'aller sur le marché et essayer de voir des femmes qui achètent le charbon chez des producteurs comme ceux-ci ou bien chez d'autres producteurs de charbon de bois, essayer de leur poser la question comment ils en sortent, elles qui prennent pour revendre.
Eh bien, on y va. Merci, messieurs. Nous sommes au marché du Rond-Point Express, dans l'endroit où justement le charbon est vendu. Bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Je peux vous demander de vous présenter?
Oui, madame. Moi, je m'appelle Patrice Mbok, précisément Bassa d'origine et grandi à Yaoundé.
Et vous vendez du charbon?
Oui, je vends du charbon, ça fait de cela 3 ans maintenant. Bon, après mes études, je me suis mis dans le business. Vu mes connaissances, les voyages, je me suis dit, bon, c'est un truc qui peut passer. Et c'est, bon, à travers mes expériences, je me suis dit que c'est un truc que les gens utilisent beaucoup dans la société. Et par là, je peux m'investir.
Vous avez fait quoi comme étude?
J'ai fait maçonnerie, j'ai un nouveau CAP en maçonnerie. Et donc là, je me suis arrêté.
Donc là, vous avez votre petit coin dans ce marché. Vous vendez du charbon qui vient d'où?
Ça vient de plusieurs villages. Et il y a des Kali, il y a Bomban, il y a Djeng, sur la route de Bétoua. En fait, il y a plusieurs villages.
Et comment tu achètes, toi?
Les achats se font de plusieurs manières. Ça dépend du lieu où tu achètes et ça dépend de l'entendement de ton livreur. Il y a d'autres livreurs qui te vendent à un prix élevé, il y a d'autres livreurs qui vendent à un prix bas. Et ça dépend aussi de la qualité de la marchandise. Donc, si le charbon est gros, gros, les prix aussi élevés. Si ce sont les petits, le prix est aussi bas. Et ça dépend aussi du chargement et de la qualité du bois, parce qu'il y a plusieurs bois qu'on utilise, c'est la doum, il y a les baies, il y a les calis, etc. Donc maintenant, ça dépend de l'arbre et de la grosseur et de la qualité du charbon.
Parce que le charbon, c'est à base de bois, donc il faut couper beaucoup de bois pour faire du charbon. Est-ce qu'il faut aller le chercher de plus en plus loin?
Bon, avec cette déforestation qui se pose, on interdit l'abattement des arbres. Pour qu'on ait le charbon maintenant, les gens se retrouvent encore d'utiliser les arbres qui ne sont pas interdits par la loi de les abattre. Donc on fait le maximum de pouvoir satisfaire nos clients.
Il y a des bois qui sont interdits d'utiliser pour le charbon.
Oui, il y a les bois qui sont interdits pour utiliser pour le charbon.
Et alors là, qu'est-ce qu'il y a à vendre aujourd'hui dans ton comptoir?
Ce n'est que les sacs, le charbon en sac et en détail.
Et tu gagnes correctement ta vie avec ce business?
Bon, je ne peux dire que je gagne correctement ma vie puisque ce n'est pas vraiment ma passion que j'aimerais faire, mais c'est juste un alibi qui peut me permettre d'obtenir et de continuer dans ce que j'aimerais faire. Oui.
Et les contraintes des bois qui sont interdits, par exemple, pour faire le charbon, quand on parle de déforestation, d'environnement, tout ça, ça t'inquiète par rapport au business?
Ça m'inquiète, si, parce que je suis bien conscient que d'ici quelques années, ce serait impossible de commercialiser le charbon. Parce que, vu aussi la forêt qui se rétrécit, on cherche autre chose à faire. Mais bon, si je pouvais avoir assez aussi de moyens pour faire une formation, parce que j'ai suivi qu'il y a une nouvelle formation qui se fait à base de charbon écologique. Donc c'est un truc que je songe faire, mais si je ne parviens pas à voir, moi je songe faire autre chose.
Alors justement, je te présente Steve Doutchou, qui est responsable de Stema, qui fait de la formation sur le charbon écologique. C'est son travail. Est-ce que c'est par exemple pour des gens comme Patrice que votre formation existe?
Déjà, je veux dire, Patrice a écouté son interview, je suis marqué. Parce que très peu de personnes prennent conscience dans leur activité du futur. Lui, je pouvais remarquer quelqu'un qui est conscient des enjeux et des conséquences du charbon de bois, hein, et qui est conscient du métier dans lequel il exerce, parce qu'il a peur de se retrouver au chômage demain. Pourquoi les énergies fossiles vont disparaître? Alors, la formation donc, que nous lançons, ce sont des formations professionnelles agréées par le ministère qui permettent aux jeunes de pouvoir se former et acquérir des connaissances dans le domaine des énergies renouvelables. Particulièrement, la filière qui s'applique dans le domaine de Patrice, voilà, c'est la gestion des déchets. Donc, dans la filière gestion des déchets, on utilise les déchets pour produire du charbon écologique, du biogaz et bien d'autres choses. Donc, il est question ici de voir toutes ces personnes qui font dans la vente, par exemple, du charbon de bois, pour qu'ils ne perdent pas leur activité, parce qu'ils ont des connaissances que nous n'avons pas. Déjà, ils parlent du type de bois, ils connaissent le marché du charbon.
Et donc, est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Patrice pourrait se former chez cette marque?
Voilà, Patrice, les portes sont ouvertes. Nous t'encourageons de passer. À l'Institut Stema, nous avons deux campus à Yaoundé. Un campus tout près de chez toi. Nous avons un petit campus, des salles qui prennent 15 personnes pour se rassurer de l'aide des formations suffisamment équilibrées et adéquates qui rencontrent leurs besoins et qui les permet à la fin de pouvoir s'insérer. Parce que lorsque vous formez, on fait un suivi après formation pour vous installer artisanalement d'abord pour que vous-même vous puissiez produire.
Alors moi, je vais poser une question pour Patrice. Ça coûte combien la formation?
Voilà, la formation, c'est un an et elle coûte 380 000 francs. Bon, dans la formation, nous rassurons qu'il y a les stages en entreprise. Donc, nous avons des entreprises spécialisées, des entreprises partenaires à l'Institut. Après vos 12 mois de formation, à 3 mois de stage en entreprise, pour ceux qui voudront travailler en entreprise après leur formation, pour dire qu'ils ne vont pas directement décoller avec leur business. Et pour ceux qui veulent décoller, nous avons un cabinet d'expertise, le cabinet Afrique Renewal, qui vise à changer le système de pensée des personnes afin de leur donner de trouver des bonnes motivations lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
Et comment on fait pour financer ces études si on n'a pas l'argent?
Voilà. Nous avons pris la peine de mettre sur pied des systèmes qui favorise l'insertion professionnelle et la formation des étudiants qui n'ont pas assez de moyens. Déjà, le promoteur que je suis, nous avons une bourse que nous mettons sur pied chaque début d'année pour donner la possibilité à 5 personnes de pouvoir avoir une réduction assez conséquente sur leurs frais de scolarité. Alors, comment se passe cette bourse? Vous souscrivez? Comme je dis, de par le cabinet, il y a un gros problème de mentalité. Le but, c'est de comprendre pourquoi vous voulez vous former, quelles sont les motivations, quels sont les enjeux.
Alors, Patrice, il a presque déjà passé l'entretien, là.
Voilà, Patrice, je suis vraiment marqué par son interview. C'était extraordinaire pour moi de savoir qu'il y a un jeune qui fait dans le charbon de bois. C'est comme un accomplissement de ma vision.
Ça vous intéresse, Patrice?
Ok, si, bon, j'ai à penser à ça vraiment depuis des années. Ce n'est pas un truc qui me vient maintenant à l'idée, c'est un truc qui vient beaucoup à l'idée depuis, ça fait de ça depuis 2015. Mais avant que je ne commence, j'en serais beaucoup y réfléchi. Je me suis dit, s'il arrivait vraiment que les apps n'existent plus, qu'est-ce que j'y ferais dans ce business? Bon, je me suis posé beaucoup de questions. Et bon, c'est encore la question est restée avec un point d'interrogation jusqu'à aujourd'hui. Comme le directeur a assez bien dit, si je ne me trompe pas, c'est vrai, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative, mais vu aussi que nous, on ne se trompe pas, la vie au Cameroun n'est pas vraiment une vie du chocolat, quoi. Parce que actuellement, débourser peut-être un jeune comme moi qui me cherche encore, qui me bat, débourser une somme de 360 000 pour une formation, c'est bien beau. Mais pour moi, ça serait un peu pesant pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai aussi mes petites choses. En fait, nous sommes dans une vie africaine. Oui, donc c'est pas vraiment évident.
Et ben voilà, la rencontre a eu lieu maintenant. Affaire à suivre, on va dire.
Donc je crois que je vais déjà prendre le contact.
Voilà. Et moi, je vais suivre cette affaire de près.
Je vais y me mettre aussi, vraiment. Il faudrait vraiment que ça soit vraiment de près parce que je ne pourrais pas dire que ça sera mon avantage, mais au contraire, ça sera pour l'avantage à tous. Parce que moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais ce que je sais, dans le business, rien ne se permet, rien ne se gagne, tout est égaux. Donc, c'est vrai, je vais gagner de sa connaissance et il gagnera aussi de ma connaissance.
Merci beaucoup.
D'accord, madame. Merci.
Nous avons laissé Patrice au marché du Rond-Point Express et nous avons repris la voiture pour arriver ici. Steve, ici c'est un centre de formation.
Oui, donc comme je disais tout à l'heure à Patrice, nous avons plusieurs locaux à Yaoundé. Nous avons plusieurs campus où nous formons des jeunes. Là, nous sommes arrivés à l'un de ces campus, particulièrement au campus d'Acacia, pas très loin de Monsieur Patrice. Donc nous sommes en train de nous diriger pour regarder les salles de classe et je pense qu'il doit y avoir bien des étudiants puisque c'est un jour ouvrable. Certainement, ils sont venus faire cours comme d'habitude.
Bon, ben on va aller voir.
C'est quand même vraiment un peu déplorable parce que les recycleurs arrivent au moment où les voitures, les camions sont en train de déverser les déchets. Et vous voyez comment les gens vont courir vers la voiture avec tous ces risques. S'il y a une autre question, on va toujours continuer un autre rapport.
Bon, je vais interrompre un petit peu le cours. Bonjour, monsieur.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes l'enseignant, je peux vous demander de vous présenter?
Je suis docteur ICP Martin. J'enseigne en STEMA Énergie. J'enseigne aussi dans les lycées, parfois dans les universités.
Et là, le cours, c'était sur quoi ce matin?
Le cours de ce matin portait sur l'économie circulaire.
Alors, en quelques mots, pour nos auditeurs, c'est quoi?
Bon, c'est juste un mot de gestion des déchets qui voudrait qu'on produise des biens au lieu de jeter les déchets dans la nature, et afin que cela nous crée de la pollution. Donc, c'est un mot de écologiquement rationner les déchets qui nous amène à mieux gérer les déchets pour éviter la pollution de l'environnement.
Considérer les déchets comme des ressources.
Exact. En fait, les déchets, nul ne l'ignore aujourd'hui, les déchets sont des ressources, ça génère des emplois, ça génère multiples types de ressources comme le compost, comme ce que nous essayons de faire ici, le biogaz. Et je dirais même que les déchets peuvent intervenir dans toute la chaîne des ODD. Ça fait partie des objectifs de manière directe ou indirecte. Parce que l'ODD7, par exemple, qui parle d'énergie propre, abordable pour tous, on peut utiliser les déchets pour produire ces énergies propres, comme le biocharbon, ou ce qu'on appelle encore le charbon écologique, ou le biogaz, et bien d'autres énergies, qui peuvent être accessibles, et surtout aux couches sociales plus ou moins défavorisées. Et cela peut alléger des tâches aux États qui ont des problèmes aujourd'hui à provisionner de l'énergie dans nos communes et dans nos communautés défavorisées surtout. Et surtout qu'au Cameroun, déjà, on parle de moins de 60% de personnes qui ont accès à l'énergie électrique, hydraulique.
Il y a beaucoup de délestage.
Beaucoup de délestage, beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas, par exemple, à lire les leçons à temps. Beaucoup de bureaux qui n'arrivent pas à faire fonctionner les ordinateurs comme il le faut. Beaucoup de choses qui ne mettent pas l'homme à l'aise. Par exemple, pour produire de l'eau aujourd'hui, on a besoin avec les forages des plaques solaires. On a besoin avec des forages des plaques solaires pour produire de l'eau. Les déchets peuvent être une porte de sortie parce que le biogaz peut contribuer à faire de la cuisine. Le biocharbon peut contribuer à faire de la cuisine au lieu de couper du bois, au lieu de s'appuyer sur la déforestation. Ça préserve nos ressources, ça préserve notre environnement, ça préserve notre santé. Et vous voyez, par exemple, la sécheresse est déjà en train de faire ses pas au nord Cameroun. Et le Sahel ne fait que s'approcher. Déjà, même nos forêts, même au sud Cameroun, sont menacées à cause de l'excès de déboisement.
Mais là, ils sont tous là aujourd'hui, en tout cas pour assister au cours. Alors, je vais aller voir mademoiselle qui a dit qu'elle était d'accord pour échanger avec nous. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes une élève.
Oui, oui, je suis étudiante ici à STEMA Academy Center, en environnement, spécialité, gestion des déchets.
Vous vous appelez comment?
Fonko Perpetue Mélanie.
Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venue ici?
Pour dire vrai, avant de choisir STEMA Academy Center, j'ai fait le tour, puisque je suis d'abord une amoureuse de l'environnement. Et là, ça me touche un peu de voir à quel point, au fur et à mesure que je grandis, l'environnement autour de moi se dégrade. Oui, je ne sais pas comment, mais ça me rend malade. Et là, j'ai décidé de faire une formation qui va m'aider à mieux prendre soin de cet environnement, qui va m'aider à porter ma voix vers les autres.
Quand est-ce que vous avez commencé votre formation?
J'ai commencé le 4 septembre 2023. Oui, je me suis inscrite pour une formation, un cycle de 1 an, un DQP, diplôme de qualification professionnelle.
Et qu'est-ce que vous apprenez là depuis le mois de septembre?
Bon, depuis le mois de septembre, nous avons fait plusieurs modules. Et nous avons fait informatique, nous avons fait entrepreneuriat. Oui, parce que ce sont des modules qui aident aujourd'hui à pouvoir s'en sortir dans quel que soit le domaine spécifique dont vous étudiez. Ce sont des modules qui permettent à l'apprenant de pouvoir mieux s'exercer. Oui.
Créer son entreprise.
Créer son entreprise, oui. Et là aussi, nous avons vu le module sur la formation du charbon écologique. Oui.
Comment est-ce que vous vous projetez à la sortie de votre formation?
À la sortie de ma formation, dans un début, je compte d'abord sensibiliser autour de moi parce qu'il faut éduquer. Oui, il faut éduquer les masses populaires, oui, pour qu'ils comprennent l'importance de nos actes. Oui, la dégradation de l'environnement par les déchets. Et là aussi, côté entrepreneurial, économique, oui. Monter une entreprise, oui. Ou bien se jumeler, on peut faire avec des camarades, on s'associe. On crée une structure de fabrication du charbon écologique, oui.
Mais bon courage alors.
Merci, merci à vous.
Merci pour votre témoignage. On va vous laisser reprendre le cours, monsieur, parce qu'on a dérangé un petit peu le cours là.
Alors, c'est pas grave, tout le plaisir a été le nôtre.
Du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Steve, là nous avons quitté l'académie et nous allons aller voir une personne qui consomme le charbon écologique, c'est ça?
Oui. Les premiers clients étaient des personnes qui étaient autour de moi. J'ai eu à sensibiliser mes voisines, ils ont longtemps eu à utiliser le charbon, je les vendais. Donc l'idée c'était qu'on parte les rencontrer.
Mais on va aller voir ça et on va quitter cet endroit parce que là c'est très très bruyant quand même, on entend beaucoup les voitures. On y va. Steve, là nous sommes arrivés donc devant chez Madame qui utilise le charbon écologique. On est dans quel quartier Yaoundé là?
Oui, on est au quartier général qui est tout près de l'université. Donc j'ai trouvé bon de venir commencer par ceux-là qui ont utilisé. Parfois je ne les vendais pas. Je les donnais tester, vous utiliser.
Bonjour madame.
Bonjour, moi c'est Cindy.
Alors Cindy, vous utilisez le charbon écologique?
Oui, j'utilise le charbon écologique. C'est un charbon qui ne fume pas. Ça ne noircit pas la marmite. Donc quand on prépare avec, ça ne fume pas et ça donne encore la force et le courage d'acheter et d'utiliser. Et c'est économique aussi parce que tu peux avoir ça à la maison et ton gaz, tu n'utilises plus parce que ça remplace le gaz. Oui, c'est pour ça que j'aime bien le charbon écologique.
Et par rapport au charbon de bois, quels sont les avantages?
Non, le charbon en bois, je n'aime pas bien le charbon en bois parce que le défaut, ça fume. Ça fume. Et la cendre, ça intoxique beaucoup. Donc, je ne peux pas préparer avec à la maison. Et le charbon écologique, je peux préparer avec à la maison sans que...
Est-ce qu'il y a une différence de puissance dans le feu entre le charbon de bois et le charbon écologique?
Il y a une puissance. Parce que le charbon en bois, quand on allume avec le bois. Et maintenant, le charbon écologique, l'avantage, c'est que j'allume, je mets juste le charbon dans mon four et j'allume, je prends un papier, même le papier du cahier, j'allume avec. Et ça dure aussi au feu. Oui.
Qu'est-ce que vous cuisinez dessus?
Parfois je cuisine la banane malaxée, je peux faire le haricot. Parfois même je fais les autres nourritures aussi faciles. Je peux faire même le riz sauté sur ça. Je peux même faire la bouillie de l'enfant.
Et c'est plus cher ou moins cher que le charbon de bois?
C'est plus moins cher. C'est moins cher.
Alors pourquoi tout le monde n'utilise pas du charbon écologique?
Ou les gens n'ont pas encore découvert que le charbon écologique, c'est un bon charbon, je ne sais pas. Mais pour moi déjà, c'est déjà un bon charbon.
Mais après, vous disiez le sac est fini. Donc le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez.
Il n'y en a pas assez maintenant. Maintenant, c'est fini. On attend encore l'autre tour pour en acheter.
En attendant, vous utilisez du charbon de bois?
En attendant, j'utilise le gaz.
Bon, on va vous laisser vous occuper du petit Emmanuel. Merci beaucoup.
Ok, merci, merci.
Et là, nous allons aller voir la fabrication du charbon écologique, c'est ça?
Oui. Là, on va aller du côté du Cradat, où nous produisons, pour essayer de voir... l'équipe qui est là en train de produire.
Il faut dire à Désiré qui est notre chauffeur, où nous allons.
Nous partons à la cité U. Dans la cité U, on va prendre l'embranchement à gauche pour arriver au niveau de la poubelle qui est là, parce que nous produisons juste à côté.
Bonjour madame.
Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre site de production.
Je vais vous demander de vous présenter.
Je suis mademoiselle Kenny Diane. Donc je suis productrice du charbon écologique Astema Energy.
Alors expliquez-nous, là nous sommes à côté d'un tas d'ordures. C'est un site que Astema loue pour produire le charbon écologique. Ce tas, il y en a plein, malheureusement, des tas d'ordures comme ça dans Yaoundé. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce tas?
Déjà, comme vous regardez la poubelle, dans les étapes de production de charbon écologique, il y a ce qu'on appelle la pré-collecte. La pré-collecte consiste donc à aller dans les ménages et sensibiliser les ménages à ne pas verser les poubelles, comme vous voyez là, ne pas faire le mélange, à trier les déchets organiques, des déchets plastiques.
Mais de ce que je vois, ça ne marche pas trop. Là, c'est tout mélangé ici.
Voilà, ici, c'est tout mélangé. Donc, nous sommes encore dans la phase de sensibilisation. Alors, comme c'est déjà comme ça, nous allons procéder à ce qu'on appelle le tri.
Donc, vous prenez des gants et puis vous sortez les déchets organiques. Alors, pour expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que c'est les déchets organiques?
Voilà, les déchets organiques, c'est tout ce qui est biodégradable. Donc, ça peut être les peaux de bananes, les peaux de plantains, les peaux de pommes. En fait, tout ce qui est organique, quoi.
Le maïs aussi, enfin, on voit. Et alors là, vous avez sorti beaucoup de peaux de bananes plantains qui sont en train de sécher au soleil.
On collecte le déchet, on étale au sol pour sécher.
Donc une fois que ces peaux de bananes plantain, par exemple, sont sèches, qu'est-ce que vous en faites?
Dès que c'est sec, nous procédons à la phase de carbonisation. Donc la phase de carbonisation, comme vous voyez là, nous avons fabriqué une machine que nous appelons le carbostéma. Donc c'est une forme de brûler le déchet, si on peut le dire ainsi, on va brûler.
Alors la machine, contrairement à ce que pourraient penser les auditeurs, c'est pas compliqué, hein, c'est... En gros, un baril en métal sur lequel fermé, sur lequel vous avez mis une cheminée. Et j'imagine que vous remplissez ces barils avec les déchets organiques. Vous fermez, vous mettez le feu et vous attendez que ça brûle jusqu'à ce que ça fasse la poussière noire que nous voyons à côté.
Effectivement, cette poudre est appelée du char. Donc, lorsque nous obtenons cette substance, cette poudre, ensuite, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons tamiser. Donc après ce tamisage, nous passons à la phase du malaxage. Donc à l'aide du liant que vous pouvez voir tout juste là derrière dans le récipient, c'est ce que nous appelons du liant.
Et ce liant, c'est quoi?
Bon, ce liant, c'est exactement du lamidon. Donc nous allons mélanger au char pour obtenir du malaxa.
Malaxa, ça fait une sorte de pâte?
Une sorte de pâte. Et c'est à l'aide de cette pâte que nous allons pouvoir constituer les briques du charbon écologique.
Et comment vous faites pour les briques?
Bon, vous pouvez regarder de l'autre côté. Nous avons les compacteurs.
Donc plein de petits moules?
Les petits moules. Donc grâce à ces moules-là, nous allons donner des formes. Vous pouvez voir carré, rond et tout, en fonction de votre goût en fait.
Et donc c'est assez long quand même la fabrication d'une boule de charbon écologique entre une semaine de plantain, la carbonisation, le fait de tamiser, ensuite le fait de malaxer, et puis finalement faire les moules, faire sécher les boules, ça prend minimum 2 semaines.
Effectivement, puisque nous produisons à l'échelle artisanale, donc nous sommes obligés de nous plier aux lois de la nature, si on peut le dire ainsi. Mais si nous utilisons des machines, c'est extrêmement rapide, c'est assez rapide parce que le séchage ne va pas prendre assez de temps. C'est déjà sec, déjà carbonisé, déjà broyé, déjà malaxé, déjà séché et le charbon est déjà sur le marché prêt à être consommé.
C'est votre rêve ça?
C'est notre rêve, c'est notre rêve. Donc c'est notre rêve et nous travaillons là-dessus. Nous espérons que l'un de ces jours-ci, nous pourrons avoir toutes ces machines qui permettront à ce que nous puissions avoir une production abondante et assez rapide.
Merci beaucoup et bon courage.
Merci madame, merci.
Steve, là nous arrivons à la fin du reportage. Les émissions de radio sont limitées, donc on ne peut pas faire aller voir ce que vous faites sur le biogaz ou sur les énergies solaires, mais on voit bien que vous êtes un entrepreneur avec une vraie vision. Le seul problème qui manque, évidemment, ce sont les financements, parce que nous avons bien compris à travers ce reportage qu'il y a vraiment une vraie demande pour le charbon écologique ici à Yaoundé, mais il n'y a pas assez d'offres, vous n'arrivez pas à produire assez parce que vous êtes encore au stade artisanal, comme on le voit ici, en terrain ouvert, juste à côté du tas d'ordures. Vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas de machines, c'est très physique. Donc, quelle est la phase suivante? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour vous développer davantage et quelles sont vos possibilités?
Pour nous développer davantage, il faut passer à l'étape industrielle. Déjà, le charbon que nous produisons n'arrive même pas à satisfaire un dixième de nos clients. Et il y a également les problèmes de saison de pluie qui nous empêchent même encore de pouvoir satisfaire tous ceux que nous avons l'habitude de satisfaire en saison sèche. Voilà.
Parce que par exemple, pendant les saisons de pluie, si vous aviez un séchoir, ça résoudrait tous les problèmes.
Justement, ça résoudrait tous les problèmes. Parce que pendant qu'on prend 3-4 jours, une semaine pour sécher déjà les déchets, pour reprendre encore 3-4 jours pour sécher le charbon, tout ce processus-là rend un peu la chose extrêmement difficile et au niveau de la rentabilité est un peu pénible. Alors, nous voulons passer à l'étape industrielle parce que nous pensons que c'est une mine d'or sur le plan économique, c'est une mine d'or sur le plan environnemental, sur le plan climatique. Et c'est aussi une opportunité pour faire sortir beaucoup du chômage parce que tous ces étudiants que nous finissons après la formation que nous recrutons, nous leur donnons une possibilité de changer leur avenir, nous leur donnons une possibilité de frayer un chemin dans le milieu professionnel. Or, nous sommes en train de vouloir... fait les boutiques pour vendre les produits. Donc nous avons un 200 m² où nous allons concevoir comme une maison écologique où nous vendons uniquement des produits écologiques. Et la suite, c'est de pouvoir trouver un site assez grand pour faire notre industrie et poursuivre avec des machines industrielles. Déjà, le carbonisateur industriel nous facilitera beaucoup la tâche. Également, des machines pour le séchage, nous facilitera la tâche. Donc toutes ces machines, en fait, nous permettront de produire au moins 50 tonnes de charbon par mois.
Aujourd'hui, vous produisez combien?
En zone sèche, on peut environner les 3 tonnes et en zone pluvieuse, les 1 tonne et demie, parfois même 1 tonne. Donc nous pensons qu'avec toutes ces machines, nous allons pouvoir arriver à au moins 50 tonnes.
Parce que la demande est là.
La demande est là.
Merci beaucoup.
Merci à vous également. Now this one goes out to the Cameroon football team. We are proud of them. Makanaki. Well, I'm football crazy. I'm football mad. Football is the nicest game that I have ever had. I wanted the Cameroon to win the World Cup, but they put Africa on the football map. Pam pam, lick a shot if you love the Cameroon. Pam pam, lick a shot if you love the Cameroon. Pam pam, lick a shot if you love the Cameroon. Pam pam, lick a shot if you love the Cameroon.
Un reportage réalisé par François Porcheron. J'imagine que cela ne vous a pas échappé. Steve Jochou est déterminé, persuadé que l'avenir est dans l'entrepreneuriat des énergies renouvelables. Alors si vous avez un moyen ou un autre de l'accompagner, foncez, il le mérite. Benoît Théo, je rappelle que vous êtes le cofondateur de ICAF, qui signifie Initiative Climat Afrique Francophone, qui réunit donc des entrepreneurs africains d'une quinzaine de pays qui se sont lancés donc dans l'agroécologie, le biogaz et le charbon vert. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage?
Ça, c'est un exemple finalement tout à fait intéressant d'une prise d'initiative. Mais on constate malheureusement qu'il a très peu de moyens pour développer effectivement sa production. Sa production est quand même très, très artisanale. Nous, dans le cluster, on a quand même, maintenant, les producteurs sont quand même équipés de matériel, même si ce sont des matériels mécaniques, hein, non électrifiés. Ils ont quand même des matériels qui sont quand même assez intéressants pour pouvoir produire un peu plus. Parce qu'il faut faire très attention à ce que les gens ne se découragent pas, parce que le travail tel qu'il est décrit effectivement dans cet atelier est un travail quand même très dur. Les délais de production sont très longs. Alors, on a bien senti que les gens étaient très, très motivés. Mais à un moment donné, il faut aussi leur donner des perspectives de développement. Et une production vraiment très manuelle, ne permet pas justement d'avoir ces perspectives. Donc, c'est tout l'intérêt effectivement d'être en cluster pour être conseillé, accompagné par d'autres producteurs qui sont passés par ces étapes-là. Je dirais, tous les producteurs, vous parliez tout à l'heure de Müller, de Tanke, de Kimit Ecologie, c'est pareil, il a commencé avec des petits moules manuels chez lui à produire des petites briquettes. Et le cluster est là justement pour accompagner ces entrepreneurs. Nous recevons toutes les semaines au moins 2 ou 3 demandes de différents pays africains, encore aujourd'hui, c'était Madagascar, de gens qui souhaitent avoir des conseils. Alors, on leur envoie des plans pour construire des matériels, on leur fait des propositions sur en termes de formation. Et puis, nous avons le projet prochainement de concevoir un cours en ligne qui va être en appui du guide de production, avec justement très bien illustré en images. Et donc, on va faire des cours qui vont être très visuels, audio et visuel pour des gens sensibiliser déjà ces entrepreneurs à l'intérêt de s'engager dans cette filière.
Oui, parce qu'on entend bien que les impacts sont positifs, sont multiples hein, dans les domaines économiques, sociaux, sanitaires, écologiques.
Alors les impacts sont très intéressants. Premièrement, sur la question de l'accès à l'énergie. Ça permet de produire une énergie décentralisée avec la valorisation de ressources locales. On parle d'économie circulaire, hein, si on veut. Mais il faut bien voir que ça permet bien sûr de cuire les aliments ou avoir des biocombustibles pour le chauffage. Mais on peut aussi, avec le charbon vert, produire du gaz pour la cuisson et produire aussi de l'électricité. Bon. La question effectivement sanitaire, c'est un charbon qui fume peu et donc qui émet peu de gaz nocifs pour la santé des femmes, puisque souvent, c'est quand même les femmes qui font effectivement la cuisine. Pour moi, l'aspect le plus important, c'est la création d'emplois. Il y a encore la semaine dernière, sur une journée, Müller me disait que 7 jeunes se sont présentés à l'usine pour demander du travail. C'est-à-dire que dans un pays comme le Cameroun, mais malheureusement dans beaucoup d'autres pays africains, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler, mais les emplois manquent. Donc la création effectivement d'emplois, c'est très important parce que même si on est mécanisé, c'est quand même la production du charbon vert demande quand même une certaine main-d'œuvre. Donc la création d'emplois est vraiment pour moi un élément très important.
Vous allez justement créer un centre de formation spécifique sur le charbon vert à Douala.
Voilà, en plus des documents que nous pouvons diffuser en ligne, on aura aussi un centre de formation physiquement basé à Douala, où les gens pourront venir vraiment se former à la production du charbon vert. À la fois dans une chaîne, on va dire, manuelle, parce qu'au départ, il faut bien sentir le produit, voir comment il se comporte, etc. Il faut vraiment mettre les mains tirées dans le charbon, mais aussi à côté, découvrir l'unité industrielle qui leur montrera aussi les perspectives de développement qui existent dans cette filière. Donc ce centre de formation, bon, on le monte avec des moyens modestes, mais il a quand même de grandes ambitions. On accueillera à la fois des groupes très divers qui veulent découvrir la filière, donc sur quelques jours, une semaine, etc. Et puis aussi des personnes après, des entrepreneurs qui veulent vraiment soit se lancer, soit conforter, je dirais, leur pratique. Et là, ça sera des formations qui vont durer quand même plusieurs mois. Et ensuite, ils seront accompagnés à distance parce que c'est très important de toujours garder ce lien. Et ces entrepreneurs pourront ensuite faire partie du cluster Charbon Vert et bénéficier des services que nous apportons.
Alors, de nombreux producteurs de charbon vert fabriquent ou diffusent aussi des foyers économes en énergie qui permettent d'économiser au moins 50% de combustible pour la cuisson. Ça aussi, ce sont des filières à construire. Ça fonctionne ?
Voilà, ça, on recommande systématiquement aussi l'utilisation de ces foyers, y compris pour les gens qui n'ont que du bois ou du charbon de bois, hein, parce que ça permet quand même une économie très substantielle, effectivement, de combustible. Mais ça s'accompagne aussi, effectivement, de la diffusion du charbon vert. Nous avons, par exemple, au Togo, un jeune entrepreneur qui construit ses foyers économes d'énergie. Les gens n'ont pas la possibilité de l'acheter, parce que ça représente quand même un investissement au départ. Alors, il place le foyer dans les ménages. Tous les mois, il apporte le charbon vert. Et puis, les ménages versent une cotisation tous les mois. Puis, au bout de l'année, au bout d'un an, ils sont propriétaires, effectivement, de leur foyer. Et après, ils continuent en achetant le combustible pour pouvoir, évidemment, faire leur cuisson. Donc voilà, il faut trouver ce genre de montage aussi. C'est très important de travailler sur la partie marketing. Nous avons le même système au Mali, avec un jeune entrepreneur qui installe les biodigesteurs dans les ménages. Et ce sont des locations, en fait. Des locations. Chaque mois, la personne paye, ce qui évite de faire effectivement l'investissement que beaucoup de gens ne peuvent pas faire, hein, compte tenu de la situation économique des populations dans ces pays.
Il faut être créatif, il faut être inventif. En tout cas, c'est ce que nous pouvons retenir de cette émission. Merci beaucoup, Benoît Théo, pour toutes ces explications. Si les auditeurs veulent en savoir plus, eh bien, ils peuvent aller sur votre site initiativeclimat.org et sur votre chaîne YouTube Initiative Climat, sur laquelle il y a plein de tutos et il y a un reportage justement sur le cluster africain Charbon Vert que vous avez créé. Et tenez-nous au courant de la création de ce centre de formation.
Avec plaisir. J'ai reçu des photos tout à l'heure. Nous sommes en train de remblayer le terrain, qui est un terrain inondable à l'origine, pour pouvoir commencer à poser des containers et puis équiper progressivement le centre.
Voilà, donc l'ouverture, ça sera pour bientôt. Merci beaucoup. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Tout de suite, c'est le journal sur RFI.